Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall.
Nous sommes parvenus, chers amis, dans l'histoire d'Élie et d'Élisée, au moment crucial où le prophète Élie va être séparé d'Élisée. Ils le sentent bien, et même si Élie essaie de dire à son futur successeur de rester un petit peu au-delà, mais Élisée le suit à Bethel d'abord, puis il le suit à Jéricho, puis ensuite plus près au Jourdain qui était pas loin de Jéricho. Et dans ces épisodes, dans ces marches successives, les prophètes, les frères prophètes, les faux prophètes, donc qui ont parfois des lueurs quand même plus claires, sont là et mettent la pression sur Élisée que quelque chose va se passer. Ils se tiennent quand même, ces frères prophètes, à distance, quand le prophète senior et le prophète junior se tiennent au bord du Jourdain et que l'on sent arriver l'heure de l'enlèvement, comme ils le disent. L'heure de l'enlèvement, ton maître va être enlevé. De fait, Élie, au bord du Jourdain, prit son manteau, vous voyez toujours le manteau caractéristique des prophètes, le roula et en frappa les eaux qui s'écartèrent de part et d'autre, et ils traversèrent tous deux à pied sec. Donc, signe de l'identité de la mission du prophète, le manteau est aussi un instrument pour agir au nom de Dieu comme le bâton l'était pour Moïse. Et le geste d'Élie renvoie clairement au passage de la mer Rouge et aussi à la traversée du Jourdain à pied sec. Le point de départ, c'est le point de départ et le point d'arrivée de l'Exode avec un grand E. Ce moment est donc très situé dans l'histoire du peuple de Dieu. On ne sait pas trop dans quel sens les deux hommes franchissent le Jourdain. Comme ils venaient de Jéricho, on peut penser qu'ils allaient vers la Jordanie actuelle. Le texte continue. Pendant qu'ils passaient, nous avons déjà souligné ce mot dans tous ces textes-là, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » D'être enlevé loin de toi. Pendant qu'il refaisait l'expérience de Josué, et bien pendant qu'il passait, donc l'expérience de Josué qui a fait passer le peuple élu à la fin de l'exode des terres de Moab jusqu'à la Terre Sainte, et donc pendant qu'il refaisait donc l'expérience de Josué, pendant qu'il passait, encore ce mot de passage qui revient dans toutes ces pages, tandis qu'ils étaient dans le lit de ce petit fleuve à pied sec, Élie prend la parole, ce qu'il n'a guère fait depuis le début de sa journée qui était sa dernière ici-bas. Le prophète n'est pas bavard d'habitude, mais il ne peut quitter son disciple et successeur sans lui laisser, outre le manteau, une sorte de témoin, comme celui que se transmettent les sportifs dans les courses de relais. Témoin. Là, c'est un manteau qui est témoin. Dans ce sens, avec émotion, il lui demande... délicatement, il lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Ce qu'il aimerait avoir ou recevoir pour la continuité de leur mission. Donc, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. » La parole de Jésus à l'aveugle de Jéricho, Bartimée, nous revient à la mémoire « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» disait Jésus. La réponse de l'aveugle, encouragée par l'appel à la confiance qu'on lui adresse, est claire. « Seigneur, que je retrouve la vue !» Pour Élisée aussi, il s'agit de voir pour agir au nom de Dieu. Le désir et l'attente du disciple, jusque-là contraint, de peur, tout au moins d'émotion, sont libérés. Élisée peut dire ce qu'il a au fond du cœur, « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Ah, il n'y va pas à moitié. Il ne se contente pas de solliciter une grâce qui lui permettra de poursuivre la mission de son maître. Il ne veut pas le doubler non plus. Mais il semble qu'il a besoin d'un surcroît de souffle pour rester fidèle, ce que montrera la suite de sa vie, marquée par le merveilleux aussi. On a compté les miracles de l'un et de l'autre, d'Élie et d'Élisée. Et 8 sont rapportés à Élie et 16 à Élisée. Et vous voyez, c'est une double part de son esprit. Cette comptabilité est amusante, bien sûr. Comme nous le disait souvent mon maître des novices quand j'étais à mon abbaye de Carconnon, dans la vie spirituelle, il faut être ambitieux, il faut en vouloir. Et nous devons être ou devenir des hommes de désir pour être comme Élie et des hommes de Dieu. Jésus dit dans l'Évangile, le royaume de Dieu souffre violent, ce sont les violents qui l'emportent. Donc, sommes-nous de cela? La suite du récit est précisément et véritablement merveilleuse, au sens d'une merveille. Élie reprit, tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Enlevé loin de toi, comme Jésus est enlevé à l'ascension. Et disait, ouvre l'œil, donc, même si son cœur est serré, puisque par deux fois, Élie lui fait entendre, comme les frères prophètes, qu'ils vont être séparés. L'heure arrive. Dieu vient prendre son serviteur. Ils étaient en train de marcher tout en parlant. Alors, ça nous rappelle un petit peu Abraham et son fils Isaac qui marchaient vers le mont Moria et le cœur très, très, très serré du père qui a été invité à immoler son fils et le fils qui est à côté de lui parlait. C'est vraiment crucial. Donc, ils étaient en train de marcher, tout en parlant, lorsqu'un char de feu, avec des chevaux de feu, les sépara. Alors, Élisée monta au ciel dans un ouragan, il est pris dans ce char, emporté dans ce char, et Élie se mit à crier, « mon père, char d'Israël et ses cavaliers !» Puis il cessa de le voir. Ils marchaient, ils parlaient ensemble quand Dieu vint enlever Élie. De même, Jésus, après avoir retrouvé ses apôtres au Cénacle, après avoir mangé avec eux après la résurrection, les emmène dehors, jusque Béthanie. Puis là, il les bénit, et tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel.